sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais, pourtant ainsi va la vie comme un invité mystère.
Bonjour, bienvenue à tous dans l'émission Ainsi va la vie. Irène Finkel au micro et Tiffaine Lemaine à la technique. Aujourd'hui, je reçois Éric Darago. Bonjour Éric.
Bonjour Irène, bonjour Tiffaine.
Éric, vous êtes né le 19 avril 1966 à Montreuil-sous-Bois. À 15 ans, vous obtenez un CAP BEP, restauration, cuisine, puis vous intégrez le cycle BTH, option restauration. À 17 ans, vous arrivez dans la vie active, dans une chaîne de restauration traditionnelle, au Poivrier, groupe de Sodexo, branche loisirs. À 18 ans, vous effectuez votre service militaire, puis à 20 ans, vous revenez au Poivrier jusqu'à l'âge de 27 ans. Vous évoluez à différents postes au sein de cette filiale. À 27 ans, l'année d'ailleurs de votre mariage, vous quittez la restauration traditionnelle pour la restauration collective, toujours chez Sodexo. Vous travaillez pour la filiale collectivité territoriale, établissement privé, puis vous évoluez dans différents postes, mais également dans différentes régions, avec des mouvements géographiques tous les deux ans. Nous sommes alors en 2001, vous avez 35 ans, et vous êtes chassé par le groupe dont le siège est alors en création, le groupe Barrière. Vous faites vos débuts comme coordinateur restauration groupe hôtel et restaurant, puis comme responsable restauration opérationnelle groupe hôtel et casino. De 2005 à 2008, vous participez au développement de la restauration groupe hôtel et casino. En 2008, vous arrivez dans le milieu casinotier. Vous reprenez la direction du casino de Jonzac et c'est en 2012 que la Ville Rose accueille le casino dont vous devenez le PDG. Quel parcours, Éric, c'est incroyable. Et nous avons une heure, bien sûr, pour le développer, ce parcours. Mais avant d'en arriver là, dites-nous, quel petit garçon avez-vous été ?
Un petit garçon turbulent, un petit garçon qui est impatient, il l'est toujours, c'est quelque chose qu'on me reproche souvent. J'aime aller vite, j'aime que ça bouge, et je suis resté tel que j'étais petit, je pense. Difficile pour mes parents, parce que touche à tout, casse-cou.
Vous étiez fils unique ?
Alors, on est deux, j'ai un frère aîné, 5 ans plus âgé que moi, qui est lui très calme, au contraire de moi, hein, on est opposés là-dessus. Moi, sportif, à suivre mon père partout, le jardin, la nature, les activités physiques, vraiment tout ce qui est concret en fait.
Donc vous avez fait du sport étant enfant ?
Beaucoup de sport, d'ailleurs j'étais hyperactif comme enfant, donc les médecins avaient dit à mes parents, il faut qu'il fasse du sport, il faut le dépenser, hein, on va le crever et il sera plus calme le soir. Ça ne marchait pas vraiment, mais j'ai fait beaucoup de sport du coup. Donc rapidement, dès mes 5 ans, du judo, que j'ai fait pendant une quinzaine d'années. Puis rapidement aussi de la natation. Et globalement, tous les jours de la semaine, j'étais au sport le soir.
Pas de sport collectif ?
Pas de sport collectif au début. Et puis après, donc un sport, un art martial, le judo, plutôt de défense, mais quelque chose qui allait canaliser justement mon impétuosité, on va dire. Et puis de la natation pour m'épuiser au long cours, faire beaucoup de distance, de la nage. J'adore nager, d'ailleurs j'adore l'océan, c'est une de mes passions.
C'est vous continuez alors la natation ?
Je continue la natation quand je peux. L'histoire de mon parcours professionnel fait que j'ai peu de temps pour moi aujourd'hui, mais le sport reste pour moi quelque chose de fondamental dans mon éducation. Ça m'a appris aussi beaucoup de valeurs et beaucoup de choses, et ça m'a structuré aussi pour la suite.
Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez enfant ?
Alors, j'étais un petit peu rond, un petit peu boulimique.
Et malgré le sport ?
Malgré le sport, et je mangeais beaucoup, j'avais un appétit très féroce. Et
bonne cuisinière alors ?
Exactement, je vidais les frigos et les tiroirs, ce qui déplaisait beaucoup à mes parents. J'étais un peu polisson, ils avaient bon caché des fois des choses, je trouvais toujours les cachettes, et j'avais toujours faim. Mais oui, j'adore manger et en fait je suivais ma mère partout dans la cuisine. C'est peut-être pour ça que je suis devenu cuisinier. Comme j'adorais suivre mon père à faire pousser les légumes, le potager, être dehors, la nature, les fleurs.
Donc vous avez vécu dans une maison, pas en appartement.
Alors j'ai eu la chance de vivre souvent dans une maison.
Pourquoi souvent vos parents ont bougé ?
Oui, ils ont un petit peu bougé, même s'ils sont restés dans la région parisienne, mais on a bougé de 2-3 maisons. Et puis... mon grand-père avait une maison de campagne, on va dire, à côté de Provins. Et là, on avait un grand jardin, on y allait le week-end. Et, Et je faisais un grand potager, 200 mètres carrés de potager à l'époque. Et j'aimais sortir le légume de terre, le passer sous l'eau et le manger tout de suite. Je crois qu'il y a
oui, donc déjà, il y avait effectivement une attirance pour...
C'est ça. Alors, j'ai hésité à être horticulteur ou à être cuisinier. Puis en fait, je me suis tourné vers la
cuisine. Donc, tout de suite, ça s'est dessiné tout de suite.
Tout de suite. Mon frère faisait des hautes études. Les études, ce n'était pas mon cas. Vous ne m'avez pas posé la question, mais à l'école, ce n'était pas ça.
J'allais y venir. Hein.
J'y trouvais pas mon compte.
Qu'est-ce qui vous déplaisait à l'école ?
Moi, j'avais besoin de sortir des cadres, j'avais besoin de pragmatisme, j'avais besoin de concret, j'avais besoin de réaliser quelque chose. Et l'école, c'était long, c'était fastidieux. Donc, en cours, ça allait bien, mais en dehors...
En tant qu'hyperactif, vous vous ennuyez à l'école.
Exactement. C'est un petit peu ça.
Oui.
Voilà. Sauf au sport. Alors, au sport, j'excellais.
Et quel camarade étiez-vous ?
Je pense à un bon camarade, suiveur.
Bagarreur.
Un petit peu, mais pas plus que ça. Il ne fallait pas venir m'embêter.
Et quand vous étiez jeune, quelle a été la place de la musique ? Est-ce qu'on vous a fait apprendre un instrument ?
Oui, parce qu'en fait, comme ça ne m'épuisait pas suffisamment le sport, on avait dit à mes parents, faut lui faire faire des jeux de société. J'aime jouer d'ailleurs, ce n'est pas pour ça que je suis devenu au casino, mais j'aime jouer,
non,
j'aime
les jeux de société. Non, il ne faut pas manger la baraque quand même.
J'aime gagner, j'aime pas perdre. Et,
oui.
et en fait, souvent, j'ai un petit peu de chance et je gagne bien. J'ai aimé jouer aux jeux de société, donc j'ai beaucoup joué.
Et, quel jeu vous aimiez ?
Les jeux de cartes, le jeu de tarot, ce genre de jeu, le bridge, etc. Puis les échecs aussi. Mon père jouait très bien aux échecs, donc j'ai appris avec mon père à jouer aux échecs.
Ça structure en plus. Les échecs, c'est un sport, parce que c'est un sport, les échecs. Et c'est quelque chose qui structure énormément. Oui.
Exactement. Puis mentalement, ça épuise un peu. Je pense que justement, faire travailler mon cerveau et la réflexion me fatiguait plus que faire travailler les muscles. Et donc, j'ai fait un peu de musique, donc de la trompette. Très peu de temps, mais j'ai un souvenir horrible de ce professeur, donc j'ai arrêté tout de suite. Puis je suis basculé un tout petit peu au piano, mais le solfège, ça me rappelait l'école. C'était trop fastidieux pour moi, ça ne me ressemblait pas. C'est un grand regret dans mon parcours, c'est de ne pas maîtriser aujourd'hui un instrument de musique. Parce que
il
n'est
jamais trop
tard, musique.
Vous savez, pour apprendre un instrument.
Oui, je le sais. Peut-être que je vais m'y mettre à la retraite, parce que je pense déjà à demain, et je me dis peut-être que ce que je n'ai pas pu faire avant, je vais le faire au moment de la retraite, quand j'aurai du temps. Donc j'ai fait un petit peu de piano, puis surtout un peu de clarinette. Et la clarinette, je l'ai arrêtée parce que j'ai fait une allergie aux hanches, en fait. Et donc ça me donnait des boutons sur les lèvres, et donc j'ai arrêté. Et puis après, la musique, je suis passé à autre chose. En fait, ma difficulté, c'est que j'avais une appétence pour beaucoup de choses, mais je changeais très souvent, j'avais du mal à être dans la
durée.
Un petit
peu touche à tout. Vous avez une curiosité développée.
Voilà, je suis très curieux, je l'ai toujours été. Tout m'intéresse, j'aime savoir de quoi on parle et j'aime maîtriser les sujets. Pas aller à fond dedans, parce qu'une fois que j'ai fait un bon bout de tour, j'ai envie de passer à autre chose.
Oui, c'est le professeur Choron qui disait que pour s'en sortir dans la vie, il fallait connaître un petit peu de tout sur chaque chose et que c'était pas la peine de les connaître en entier, mais comment on pouvait suivre une conversation en sachant un peu tout sur tout.
Oui, exactement.
Alors, on a dit en introduction que déjà à l'âge de 15 ans, vous avez obtenu un CAP-BEP, ça veut dire que vous avez eu une orientation professionnelle très très jeune.
Oui, en fait, je suis parti de chez mes parents à cet âge-là, un petit peu pour faire ses études et rentrer un tout petit peu dans la vie active. Bien évidemment, comme souvent aux grandes dames de mes parents qui auraient souhaité que je fasse des hautes études, j'avais quelques facilités à l'école, mais ça ne me plaisait pas, en fait. Et donc, j'ai insisté et ils ont accepté.
Ils ont été inquiets pour vous ?
Je pense, oui. Pas forcément mon père, je pense plus ma mère se posait des questions. Mon père a toujours beaucoup travaillé d'un milieu modeste. Il a repris ses études pendant qu'il travaillait pour finir cadre et ingénieur, mais il avait juste son certificat des études. Je l'ai vu beaucoup travailler dans son entreprise. Une carrière très longue, hein, plus de 50 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, ça se verrait plus.
Non, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus.
Donc vous aviez quand même l'exemple de gens qui travaillaient autour de vous.
Oui, mes deux parents ont toujours travaillé,
Qu'est-ce qu'elle faisait, votre maman ?
Ma mère était secrétaire dans une fonderie et mon père travaillait chez Roussel-Uclaf, en fait. Donc, la femme à Copé, en fait.
Je ne vous ai pas posé la question, mais vous avez reçu une éducation religieuse ?
Alors, mes parents étaient bien sûr baptisés et croyants. Mon père, pas pratiquant, ma mère un petit peu. Donc, j'ai été baptisé ainsi que mon frère. Mais on nous a laissé libre choix et je dois dire que je suis athée aujourd'hui.
Donc, vous n'avez pas fait de communion, vous n'avez pas fait de catéchisme ?
Non, je n'ai pas fait de catéchisme, pas de communion. Et je n'ai jamais eu forcément d'appétence pour cela. Comme je disais, j'aime bien le concret, j'aime le pragmatisme. je crois ce que je vois, ce que je fais.
Comme Saint Thomas.
Exactement.
Est-ce que vous avez, on parle, est-ce qu'on chez vous, avec votre frère et vos parents, vous parliez politique enfant?
Un tout petit peu, mais pas vraiment. On observait, si on avait des questions, nos parents étaient là pour y répondre, mais on n'a jamais été ancré dans un milieu très politisé. Non, pas du tout.
Pas du tout.
Donc, je me fais mes propres idées et quelque part, je suis ni d'un côté ni d'un autre. Je suis plutôt sur une personnalité ou un homme ou un programme que...
D'accord.
Que sur
un parti.
Que sur un parti.
Je pense que c'est le cas pour, de nos jours pour beaucoup de monde. Oui. Dites-moi, vous rentrez dans la vie active très jeune, comme on l'a dit à l'instant, pour faire de la cuisine, donc pour
oui.
apprendre. Ça, ce sont des études qui vous ont plu.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Quand vous suivez un CAP ou un BEP en option restauration, cuisine et services, la moitié de votre temps, vous êtes dans la pratique, donc vous faites du concret.
À ce moment-là, vous rêviez d'avoir votre propre restaurant ?
Oui, c'est vrai que j'ai toujours pensé que je pourrais être mon propre maître et travailler pour moi.
Donc ça, c'est quelque chose très tôt, cette indépendance
très
professionnelle
tôt, oui, tôt,
qui est apparue très tôt.
Voilà. Donc moi, à mes 17 ans, 18 ans, je suis parti de chez mes parents. J'ai loué, puis j'ai acheté tout de suite à 18 ans très tôt. Je me suis structuré tout seul très tôt.
Dans la région parisienne.
Même si mes parents étaient derrière moi, qui nous ont aidés, etc. J'ai souvent souhaité...
L'indépendance était importante.
Ouais. L'autonomie, j'ai envie de dire. Mais même dans tous les postes que j'ai faits, j'aime travailler avec des patrons qui me laissent de l'autonomie. J'aurais beaucoup de mal à évoluer dans un milieu où je serais constamment...
Rendre des comptes.
Exactement, même si j'en rends beaucoup.
Bien sûr, évidemment.
Mais voilà,
on
j'ai besoin
doute,
d'une autonomie, d'une certaine indépendance.
Alors, vous faites partie d'une génération qui avait fait l'armée.
Tout à fait.
Alors, comment ça se fait que vous, l'armée, ça a duré aussi longtemps ?
Eh bien, alors...
Parce que vous m'avez indiqué avoir fait votre armée à 18 ans, et puis après, vous me parlez de reprendre au poivrier à 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans ?
Alors,
vous avez fait l'armée pour vous et pour un copain ?
Voilà, ouais, j'ai voulu choisir un endroit, donc j'ai demandé un VSL pour pouvoir choisir cet endroit, parce qu'en fait j'étais très amoureux. Puis entre le moment où il fallait partir et le moment où ça n'avait plus lieu d'être, donc j'ai dit je ne veux pas, donc ils sont venus me chercher. Je suis parti donc en Allemagne, à Neustadt, pour faire mon service, qui était un endroit très difficile, à côté de Landau, la forteresse. Et en fait, j'ai été chargé en fait du mess, etc. Et puis j'ai passé mon permis poids lourd et j'ai eu un grave accident de la route et j'ai fait 1 an et demi d'hôpital en fait.
Là, vous étiez dans l'armée quand c'est arrivé.
À l'armée, oui, tout à fait. Donc c'est une période un petit peu longue qui m'a empêché, soi-disant, de refaire du sport à vie. Donc ce qui était pour
moi à l'hôpital en Allemagne.
À l'hôpital en Allemagne, ce qui était pour moi quelque chose de pas pensable. Et puis petit à petit, je me suis remis quand même à refaire un sport, mais de façon moins intensive, parce que vous avez compris, dans mon parcours jeune, je faisais du sport tous les jours de la semaine, et tous les week-ends, j'étais en compétition.
Donc c'était au niveau quand même.
C'était un bon niveau, oui, jusqu'en championnat d'Europe. Et donc après, quand vous arrêtez le sport pour moi, ça ne peut pas être à moitié. Hein. C'est vraiment, vous êtes épuisé ou pas, quoi.
Moi, je pense que pour vous... Toute la vie ne peut pas être à moitié, si j'ai bien compris.
Alors, en même temps, j'aime le silence, j'aime la nature pour ça. J'aime
vous retrouver avec vous-même.
Me retrouver seul. J'aime la lecture parce que ça me permet de m'évader et pas de bruit. Par exemple...
Enfant aussi, vous aviez aimé la lecture ?
Alors oui, j'ai lu très tôt donc des bandes dessinées, comme souvent c'est le cas. Et puis mon frère était féru de science-fiction et naturellement, j'ai suivi ses pas. Hein. On a un grand frère, c'est toujours un mentor. Et donc j'ai lu de la science-fiction et j'ai trouvé ça super parce que ça me permettait de m'évader complètement.
De rêver.
Et j'aime l'espace, tout ce qui a trait, tout ça, la science-fiction. Et puis l'heroic fantasy aussi, et maintenant j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est un peu, effectivement, les héros, l'action, les situations ubuesques, ça me plaît.
Alors, on est déjà à l'heure de notre première pause musicale. Vous avez choisi de nous faire écouter Bohemian Rhapsody de Queen, et c'est tant mieux, parce que c'est une chanson absolument géniale. Pourquoi ce choix en particulier, Eric ?
Le titre correspond un petit peu à ce que je viens de décrire, hein. Donc un peu poussé, sortir des règles, aller un petit peu partout, touche à tout, être libre. Donc c'est un peu ça le titre de la chanson, un peu être bohémien dans sa façon d'être, même si je ne le suis pas du tout dans la façon de vivre, j'ai envie de dire. Et puis surtout, j'ai baigné toute ma jeunesse avec Queen. Mon frère écoutait ça. Il a d'abord écouté les Zeppelin, puis Queen, Supertramp, etc. Mais Queen, je suis resté dessus. Encore aujourd'hui, tous les jours, j'écoute au moins un titre de Queen. C'est vraiment un groupe qui m'a marqué. Et Bohemian Rhapsody, c'est une de leurs meilleures chansons, qui est mondialement connue. Et j'aime écouter, réécouter cette chanson.
Vous avez vu le film ?
Bien sûr que j'ai vu le film, oui. J'ai eu la chance aussi d'aller les voir en concert très, très jeune.
Et ah oui ?
C'est un souvenir
qui me
restera
toujours. Ah oui, ça
devait
être quelque chose. Ouais. Bah, on écoute.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me? Yes,
Je suis en compagnie d'Éric Darago, le PDG du Casino Barrière à Toulouse. Merci pour ce choix, parce que ça, la vie est toujours belle quand on écoute Queen.
Tout à fait.
Nous étions arrivés sur cette première partie à vos années, je dis à vos années d'armée, puisque comme vous venez de l'expliquer, vous avez eu un grave accident qui vous a quand même mobilisé pendant près d'un an et demi, heureusement sans séquelles.
J'espère, on verra plus tard, puisque j'ai eu une fracture intégrale du bassin, donc je suis pensionné de guerre, mais on verra si...
Ah,
si
vous êtes
j'ai...
pensionné de guerre.
Oui, oui, on verra si... quand je dis souvent je suis invalide de guerre, tout le monde me regarde. Parce que
c'est vrai que ça ne se voit pas, évidemment.
Ça surprend, mais effectivement, théoriquement, pas de sport, pas tout ça, mais bien évidemment que je bouge beaucoup, je continue à faire un peu de sport, parce que c'est en moi, mais je fais attention.
Vous faites attention.
Donc il y aura forcément quelques séquelles plus tard.
Vous revenez à 20 ans dans la vie active, au Poivrier. Je me souviens parfaitement de cette chaîne. Alors elle n'existe plus ?
Non, je pense qu'elle n'existe plus en tant que telle. Elle a perduré encore quelques années derrière. Elle a été revendue plusieurs fois.
C'était national, simplement ?
Alors, c'était uniquement sur la région parisienne. C'est Dardarian qui l'a créé. Il s'est fait racheter son concept.
Ah, c'était pas dans toute la France ?
Non, c'était pas dans toute la
donc
France.
Donc, j'ai dû connaître ça à Paris, alors.
Et en fait, il y en a eu jusqu'à 9, voire 10 dans Paris. C'était très moderne quand c'est sorti en 83, vraiment ultra moderne. C'était déjà de la restauration, donc on dit d'assemblage, avec un décor, un design qui était très particulier, des couleurs choisies exprès, un fonctionnement particulier, un recrutement à l'époque, on pourrait dire presque discriminatoire, des personnes qui étaient très particulières, issues des États-Unis, hein, bien sûr, etc. Mais qui a beaucoup marché, qui était très à la mode, très in, on va dire,
oui,
à l'époque.
Oui, je me souviens très très bien d'avoir fréquenté ces restaurants, effectivement. Donc, vous allez... rester plusieurs années avec eux, jusqu'en 2001, comme on l'a dit, où on vient vous chercher, vous chasser,
oui.
pour donner le terme exact, pour le groupe de Casino Barrière. Alors, racontez-nous cette aventure. Racontez-nous à partir du moment où quelqu'un est venu vous chasser et vous en parler.
Ouais, alors en fait, j'étais très bien chez Sodexo, hein, 19 ans de carrière chez Sodexo, donc j'avais fait plein de métiers. Je dirais que mon école, c'est Sodexo, c'est ce qui m'a formé dans le management, tout ça, de pouvoir changer tous les deux ans, d'avoir plein de formations, ça m'a... d'avoir rencontré plein de managers différents, c'est ce qui m'a constitué, m'a construit.
Une toute petite parenthèse, oui. On a dit que vous aviez changé de poste, et en tout cas de région tous les deux ans, oui. C'est pas trop difficile.
Si, familialement et autres, c'est toujours un petit peu difficile. Vous déracinez un peu les enfants, la famille. J'avais mon ex-épouse qui ne travaillait pas à l'époque, qui suivait, les enfants étaient petits, ça n'a pas trop posé de problème. Ça commençait à être un peu plus difficile quand les enfants ont grandi parce que vous les changez. Alors j'ai changé de poste géographique, mais des fois on pouvait rester un peu au même point. C'est moi qui me déplaçais
D'accord.
un petit peu plus souvent. Et donc ça m'a constitué. Et donc le groupe Barrière constituait son siège. Puisqu'avant, c'était des entités indépendantes, très fortes, avec des grosses structures à Deauville, à Cannes, historiques, j'ai envie de dire, Enghien-les-Bains. Mais il n'y avait pas un siège social en tant que tel, avec un siège, avec une direction financière, une direction administrative, casino, tel. Et dans ces deux métiers historiques, il y avait le métier de la restauration, qui était pas géré en tant que tel, on va dire, entre guillemets. Hein. Et donc, mon ancien patron que j'avais eu chez Sodexo avait été embauché pour être directeur général de la restauration hôtel et casino.
D'accord.
Il avait besoin de quelqu'un et c'est lui qui est venu me chercher alors que j'étais très, très bien chez Sodexo, que je venais prendre des fonctions il y avait deux ans où je gérais tout le Nord-Normandie pour Sodexo en termes de collectivité territoriale. Donc, j'étais bien. Et j'avais fait de la restauration traditionnelle, j'avais fait de la restauration de collectivité, on me proposait de la restauration entre guillemets de luxe, c'était la boucle était bouclée, c'est ça qui m'a décidé à changer alors que j'étais bien établi.
Oui, ce que j'allais vous dire, vous venez d'expliquer que voilà. Vous étiez très bien à ce moment-là dans votre dans votre vie professionnelle. Voilà. Et vous avez quand même sauté le pas.
J'ai sauté le pas. C'était une remise en question. Il y avait une prise de risque importante qui a été élevée d'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup de changements et qu'à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul à la tête de la restauration jusqu'à en 2005. Où il y a eu la fusion entre Accor Casino et le groupe Barrière. Le groupe Barrière a acheté Accor Casino, où j'ai eu un homologue qui est arrivé, qui a repris la gestion opérationnelle, on va dire, des équipes. Et moi, je me suis dirigé un peu plus vers les appels d'offres et puis être le référent des différents métiers, la direction des informatiques, la direction administrative, en fait, tout ce qui était mode projet, les outils, etc., je les mettais à
jour.
Donc
là, vous avez continué en plus d'apprendre.
Oui, j'ai continué d'apprendre. Et puis, c'est une époque très enrichissante de 2005 à 2008 parce que j'ai participé au développement, donc aux réponses aux appels d'offres des casinos, aux réponses à conceptualiser les restaurants, etc. Je vous ai dit tout à l'heure que petit, j'avais rêvé un jour d'avoir mon restaurant. Je n'ai jamais sauté le pas pour plein de raisons. Ça ne s'est pas présenté et autres. Mais là, subitement, on me permettait, le groupe m'a permis de le faire. Et c'est super, parce que vous écrivez sur une feuille de papier ce que vous pensez, vous participez à un concours, vous remportez le concours, et là, vous avez un actionnaire qui vous donne l'argent pour réaliser ce que vous avez écrit, en fait. Et donc, vous donnez les clés à un exploitant, vous le mettez en place, et puis vous voyez le bébé grandir. Et créer quelque chose de toute pièce, c'est quand même extrêmement flatteur. Ça nourrit beaucoup, et c'est très enrichissant. Donc ça, c'est une période professionnelle que j'ai beaucoup appréciée. Elle a été difficile pour moi aussi parce que c'était la première fois que je manageais plus des équipes, où j'étais tout seul et j'étais plutôt en appui et dans une fonction transverse de direction en opérationnel, mais pas en gestion directe des hommes. Et c'était nouveau pour moi, où j'avais que moi à gérer, en fait. Donc se retrouver tout seul et trouver l'énergie de faire bouger tous ces projets et ces chantiers, c'était aussi une nouvelle étape dans mon parcours professionnel qui a été intéressante. Puis en 2008, la crise financière, tout ça, le groupe se restructure. Il y a une opportunité. Je trouvais que dans les métiers hôtellerie, de luxe et casino, les métiers, les centres de profit, un casino, c'était, ça me subjuguait de par sa complexité. C'est un métier très particulier qui est méconnu, où il y a plus de 50 métiers dans un casino quasiment différents. Donc je trouvais ça vraiment... très très bien, et j'ai dit moi je veux bien essayer d'aller sur un casino, et on m'a dit banco, et donc j'ai fait 15 jours de formation, c'est très court, et je me suis retrouvé à Jonzac, à côté de Bordeaux, qui est une petite ville thermale, très jolie, et il y avait un petit casino, une centaine de machines à sous, 4 tables de jeu, un restaurant, un bar, et une petite salle polyvalente qui faisait déjà du spectacle. Et
alors ce petit casino, pour me faire une idée, Ça fait combien de personnes, du personnel ?
Alors, c'était très petit. C'était à peu près, à l'époque, quand je suis arrivé, 45 personnes que j'ai restructurées, etc. Et puis, j'avais un patron qui gérait qui dirigeait le casino de Toulouse, qui était amené à prendre d'autres responsabilités, qui ne pouvait plus le gérer et qui m'a proposé. Donc, il y a 200 casinos en France, on va dire. Casino de Jonzac qui était environ à la 100e place, on va dire. Et subitement, on me proposait de prendre un des 10 premiers casinos de France. Donc,
j'allais vous poser la question.
J'ai dit oui. Vous avez lu dans mon parcours qu'en fait, à chaque fois qu'on m'a sollicité, généralement, je dis toujours oui, jusqu'à aujourd'hui. Et donc,
diriez-vous que vous êtes un opportuniste ?
Opportuniste, je ne sais pas. En tout cas, je ne crée pas les opportunités. Je ne vais pas les chercher.
Mais vous savez les saisir.
Mais je sais les saisir quand c'est en adéquation avec ce que je pense et ce que j'ai envie. Donc, j'ai dit oui. Parce qu'encore aujourd'hui, on me propose des fois des postes où je sais dire non aussi. Donc, des opportunités, j'en ai. Mais quand je me...
Mais alors là, Eric, je vois que vous êtes... Donc, vous avez repris le casino à Toulouse en 2012.
Oui.
On est dans un mois, on est en 2022. Vous allez fêter vos 10 ans.
Tout à fait.
De vie toulousaine. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, vous...
Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai refait ma vie à titre personnel avec quelqu'un. Je suis bien à Toulouse.
C'est une ville qui vous plaît ?
La ville me plaît, la situation géographique aussi. J'aime l'océan, j'aime le soleil. Mes enfants sont à Bordeaux, mes beaux-enfants sont autour de Bordeaux aussi. je suis bien implanté géographiquement, mais surtout le casino de Toulouse est un des casinos les plus riches en termes d'activité et de diversité.
Et là, ça combien de personnes ?
Alors le casino de Toulouse, c'est à peu près 200 équivalents temps plein. On parle en équivalent temps plein parce que j'ai beaucoup d'extras, d'intermittents du spectacle, plus les intermittents du spectacle, etc. Mais le casino de Toulouse, c'est entre 450 à 600 fiches de paye par mois. Sur des mois comme le mois de décembre, on peut monter jusqu'à 1000 fiches de paye. Donc, c'est beaucoup de monde. Donc, je ne suis pas tout seul, hein, bien évidemment. Je suis extrêmement bien entouré.
Oui, je me doute.
Et c'est un métier où vous avez des clients. Vous avez, j'ai envie de dire, comme la restauration, mon vrai client, c'est la ville de Toulouse et les administrés de Toulouse, puisque peu de gens le savent, mais un casino, c'est un service public. Donc déjà, les gens ne savent pas forcément que le casino est un service public. Donc, il y a une obligation d'être toujours ouvert, parce que service public, 365 jours sur 365 jours. Globalement, on marche très fort quand...
Vous ouvrez combien de temps dans la journée ?
Alors, on ouvre de 9h à 4h du matin, oui. Donc c'est très présent. Mais
oui, effectivement, oui.
Mais en fait, le casino, lui, ne ferme pas. Donc en fait, c'est une entreprise qui vit H24, 365 jours sur 365
mais
jours.
Mais c'est une ville dans la ville ?
On peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est une petite
fourmilière. Sauf qu'on n'y dort pas.
On n'y dort pas. On y travaille beaucoup. Et on fait tout pour accueillir du mieux possible nos clients. Première destination touristique de Haute-Garonne, les gens ne le savent pas. 1 million de visiteurs par an au Casino de Toulouse. Une programmation artistique et un théâtre vraiment d'une ampleur nationale. Plus de 150 dates dans l'année. On produit nous-mêmes, on crée des spectacles nous-mêmes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Une restauration d'importance, plusieurs restaurants, plusieurs bars, une activité MICE et banquet aussi importante. Donc tout ça, c'est des choses différentes. Un grand parc de 7 hectares, donc j'ai aussi des jardiniers, il y a des bassins.
Alors dans la troisième partie d'émission, effectivement, je souhaiterais que vous nous expliquiez tout le fonctionnement de votre établissement, des spectacles, bien sûr. Mais là, sur cette fin de deuxième partie, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez exactement votre feuille de route, ce en quoi consiste le métier de PDG du Casino Barrière de Toulouse.
Alors, principalement animer les jeux et faire en sorte que le chiffre d'affaires soit là, bien évidemment. Comme
bien
tout
sûr,
de
évidemment.
C'est animer les hommes. Hein. C'est de reprendre la stratégie du groupe, de la développer, de l'amplifier et de la mettre en œuvre au sein du Casino Barrière de Toulouse. Donc c'est de promouvoir la marque Barrière, bien évidemment. C'est de répondre aux aspirations de la ville aussi, parce qu'on a un cahier des charges qui est très important. Okay. Donc il faut répondre à la fois à l'attente du groupe et à l'attente de la ville. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion dans tout ça. Et puis, derrière, c'est de faire progresser les hommes, hein, parce que pour que ça fonctionne, il faut que vos équipes trouvent leur compte, j'ai envie de dire. Et
ils peuvent en interne vous avoir.
Enfin, alors, en interne, dans le groupe, il y a beaucoup de mobilité. Effectivement, notre rôle, c'est de détecter les talents, c'est de leur amener une certaine forme d'éducation, si j'ose dire. C'est de les faire grandir au sein de nous, leur montrer d'autres métiers, essayer d'avoir des évolutions transverses ou des évolutions rapides. Sur site, en termes de management, ce n'est pas l'idéal, mais dans le groupe, oui, parce que c'est toujours plus difficile de prendre des responsabilités là où vous étiez dans une équipe, la manager le lendemain au même endroit, c'est plus difficile que d'aller ailleurs, on le dit souvent. Donc, mais tout est possible. En tout cas, notre rôle, c'est de détecter les talents, d'arriver à les animer, d'en tirer le meilleur pour eux et pour nous, et de faire progresser l'entreprise. Donc mon rôle est un rôle d'animateur. J'ai envie de dire, je suis un gros transformateur, je dois amener beaucoup d'énergie, la structurer, la mettre à bon escient, au bon endroit, pour que tous ces rouages fonctionnent, et de bien comprendre évidemment comment tout ça marche.
En fait, vous êtes Géo Club Med de luxe.
Par exemple.
On va écouter votre deuxième choix. Alors, on va écouter, vous avez choisi les 4 saisons de Vivaldi, mais pour nous laisser plus de temps, on va écouter qu'une saison, et on a choisi d'écouter l'hiver, puisque...
Ça tombe bien.
On est en hiver dans très peu de jours maintenant, dans 2-3 jours, donc c'est... C'est d'actualité. Thank you.
Pourquoi ce choix ?
Le choix du casino ?
Non, le choix de, des quatre saisons des de quatre Vivaldi. Saisons.
Ben, j'ai fait un petit peu de musique quand j'étais jeune. Ça m'a toujours intéressé. La musique baroque, notamment dans la musique classique. J'aime bien écouter de la classique. Je trouve que ça me repose. C'est un silence quelque part. Je vous ai dit, j'aimais bien aussi le silence. Je suis hyper actif, mais des fois, j'ai besoin de moments, des moments où je me retrouve seul avec moi-même, soit dans un livre, soit en écoutant de la musique classique, par exemple, ou en regardant un film aussi. Je peux m'évader en regardant un bon film d'action, par exemple, s'il n'y a pas de bruit autour de moi. Par contre, je supporte assez mal, justement, quand je suis concentré dans un livre ou dans un film, que quelqu'un parle à côté, par exemple. Ça, c'est quelque chose, ça me gâche le plaisir. Pareillement, quand on écoute une chanson ou autre, je trouve qu'il faut se taire et écouter la musique.
Bon, vous arrivez à trouver un équilibre quand même entre une grande famille recomposée, entre, bien sûr, ce métier qui vous prend tellement de temps et d'énergie, et d'avoir un peu de temps pour vous tout seul.
Oui, 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 j'y arrive, et avec ma compagne, c'est quelque chose... J'aime bien être casanier aussi de temps en temps, on aime bien sortir, mais on aime bien se retrouver tranquille tous les deux.
C'est très important pour l'équilibre,
voilà,
de toute façon.
Exactement, et donc, on trouve l'équilibre, mais j'aime aussi bouger, donc j'aime bien tout, en fin de compte. Donc je prends les choses comme elles viennent, en fait.
Vous êtes un optimiste.
Il faut rester optimiste, oui. De toute manière, dans toute chose, il y a toujours des choses positives et des choses négatives. Il faut garder que le positif.
Je vais vous poser une question extrêmement vague, mais justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est la question vague et la réponse précise. Quel est le fonctionnement du casino ?
Le fonctionnement du casino, c'est tellement un métier particulier, une entreprise un petit peu spéciale à travers ses obligations réglementaires que j'ai peur que l'émission ne soit pas assez longue pour définir exactement quoi. Alors, on est un métier qui est extrêmement réglementé. Les casinos se sont démocratisés, mais pendant longtemps ont souffert d'un côté un petit peu sulfureux. Les gens, à travers les films américains ou autres, on a mafieux, etc., on a l'impression que c'est un univers un petit peu... pas clean, pas fréquenté, etc., ce qui est complètement faux. En France, les casinos, c'est extrêmement réglementé, extrêmement légiféré, et c'est très très clair déjà. Et ce sont des centres, c'est du loisir.
Alors, je sais qu'il y a une branche de la police qui s'occupe de,
tout à fait.
Des jeux. Hein, comme,
oui. Le service des courses et jeux, ça s'appelle, bon. SSCJ.
Alors, j'aimerais savoir si, en interne, vous avez cette police, forme d'audit en interne, qui surveille justement avant la police.
Oui, bien évidemment, on a un audit qui est très puissant, on a des procès, c'est très procéduré un casino, il faut savoir que pour réaliser... Très encadré. Pour réaliser une tâche, souvent il faut trois personnes différentes, une personne qui fait la tâche, une personne qui vérifie la tâche et qui participe avec une clé par exemple, qui a une responsabilité au-dessus, puis ou la vidéo qui est très importante dans un casino, ou un agent de sécurité, ou une caissière, ou une troisième personne. Donc les tâches ont trois, voire quatre personnes nécessaires pour réaliser une tâche. Tout ça parce que les uns vérifient les autres, et ça c'est lié à la réglementation des jeux, et c'est obligatoire. Et la police des jeux vient vérifier que tout ça est bien appliqué. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, dans les casinos, c'est avant tout l'argent de l'État et des communes et des collectivités territoriales. Comme je l'ai dit, hein, c'est un service public, donc c'est l'argent un petit peu de tout le monde. Donc c'est aussi l'argent des administrés qui viennent jouer chez nous, par exemple.
Oui, bien sûr.
Donc c'est très contrôlé, très légiféré, donc il n'y a pas plus clair qu'un casino, contrairement aux idées reçues.
Avec des caméras partout, j'imagine.
Avec des caméras partout, je ne sais pas combien il y a de caméras dans la ville de Toulouse, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait presque autant que dans toute la ville de Toulouse.
D'accord. Oui, donc c'est quelque part rassurant.
Oui, c'est rassurant aussi pour moi et pour nous et pour les équipes, parce que justement on a tellement de contraintes liées à la réglementation des jeux et d'obligations légales, mais surtout qui sont des obligations passibles de sanctions très lourdes, on parle de pénal, donc en tant que mandataire social, c'est lié à la réglementation des jeux, je suis forcément mandataire social, je porte les responsabilités pénales, il y en a plusieurs. Et donc ça, c'est un petit supplément d'âme avec lequel il faut vivre. Et donc,
vous ne devez pas dormir quand même.
Donc avec ces audits, ces contrôles qu'on fait, ces équipes et la police, c'est rassurant parce que quelque part, ça vous oblige à être parfaitement clair et donc à éviter effectivement que par négligence ou par omission ou je ne sais quoi, vous soyez pris par la patrouille et puis que votre carrière s'arrête subitement.
Moi, je suis pas du tout casino. Les jeux, ça ne m'intéresse pas. Mais comme tout le monde, quand il y a des infos, je les écoute. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont interdites d'entrer au casino. Oui. Vous pouvez m'expliquer comment ça se passe, une telle démarche ?
Alors, il y a plusieurs types d'interdits de casino. Déjà, moi, en tant que directeur de casino, j'ai le pouvoir d'expulser quelqu'un du casino et de le mettre ce qu'on appelle à NPR, c'est-à-dire à ne plus recevoir. Je le déclare à la police des jeux. Et à l'instar
pour
l'ensemble du site, et je peux le faire à partir du moment dans la réglementation des jeux, on me donne ce petit pouvoir entre guillemets de déclarer quelqu'un NPR à partir du moment où c'est contraire à l'ordre public et à la bonne pratique des jeux. Donc si j'estime qu'une personne pour X raison ne veut pas respecter les codes du casino ou autre, ou amène une dissension, du vol, du triche, une usurpation d'identité, mal parler aux équipes, enfin on peut tout imaginer, un mauvais comportement, un mauvais dress code, etc. Je peux l'expulser et je le mets à NPR. Derrière, la police des jeux peut aller plus loin, décider de le mettre IM pour les mêmes raisons ou autres, et là il va le déclarer. S'il y a un vol, etc., il sera mis en interdit ministériel. Hein. IM, c'est interdit ministériel. Et donc là, c'est la police des jeux qui fait la démarche. En plus, après coup ou avant nous, ça dépend. Puis aussi, on a toutes les personnes qui peuvent être mal avec le jeu, qui ont du mal à réguler leur appétence sur le jeu. Et du coup, ils ont la possibilité de se mettre interdit ministériel. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Nous, ça fait longtemps que le groupe Bayer, il est leader d'ailleurs dans son marché, mais surtout là-dessus, qu'on a travaillé ce qu'on appelle le jeu responsable. Donc peu de gens le savent, mais par exemple à Toulouse depuis l'ouverture, j'ai une psychologue clinicienne qui est chez nous, qui gère ce qu'on appelle chez nous le jeu responsable. Et on a eu la chance depuis très longtemps de travailler avec l'hôpital de Purpan et de participer tous les mois à des discussions et à des débats pour voir les gens qu'on a identifiés. Toutes nos équipes sont formées à détecter les clients qui pourraient avoir une difficulté avec le jeu. Et on est là, bien sûr, pour leur apporter des solutions, les renvoyer vers des XAPA ou l'hôpital de Purpan pour les accompagner, et aussi à faire ce qu'on appelle la LVA, la limite volontaire d'accès au casino, qui est quelque chose qu'on propose, que nous avait aidé à mettre en place un grand professeur en addictologie, qui nous disait toujours que si vous interdisez brutalement, vous n'aidez pas la personne, vous ne la soignez pas, donc il faut la sevrer petit à petit, et la LVA, quelque chose que le groupe Barrière a inventé, permet ça, c'est-à-dire qu'on passe une charte avec les clients, et petit à petit, on va limiter le nombre de visites, leur accès, leur nombre de,
oui,
de
capacités détox,
de jeu, pour qu'ils prennent conscience avec le jeu, qu'ils gardent le côté plaisir, mais qui se régulent, etc. Alors, bien évidemment, comme toujours, il y en a pour qui ça marche, d'autres où ça ne marche pas, on revient. Ils ont toujours la possibilité d'être interdits ministériels.
Alors, très rapidement, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions, je suis interdit de jeu pour X ou Y raison, je viens... Quand je rentre, qui peut savoir que je suis interdit de jeu ? Chaque personne est vérifiée individuellement.
Oui, c'est une obligation de la réglementation des jeux. Donc ça, d'ailleurs, ça, c'est pénal. Donc, à ce qu'on appelle la vérification des identités, on reçoit un fichier très régulièrement de l'ANJ, qui est une nouvelle autorité de tutelle qui gère tout ce qui va être interdit de jeu en France et les mineurs, etc. Et donc, ce fichier est mis à jour dans nos systèmes informatiques. Et quand vous passez, vous devez présenter votre pièce d'identité, bien sûr. Et si vous êtes IM, ça va apparaître et auquel cas, on ne vous fera pas rentrer.
D'accord, hein? Ok, je comprends. Casino, alors, bien sûr, ce sont les machines à sous, mais vous avez, alors, comme dans les films, ces salles où il y a des joueurs de poker professionnels, des choses comme ça ?
Alors, oui, on a des. Alors, il y a plusieurs types de jeux dans le casino. Il y a bien sûr les machines à sous. Dans les machines à sous, il y a plein de types de jeux, mais on va pas s'étendre dessus. Il y en a beaucoup. Je vous invite plutôt à venir les découvrir chez nous.
Oui, non.
Par contre, on a des tables de jeux dits traditionnels, donc dans l'inconscient, donc des jeux dits de contrepartie ou des jeux dits de cercle. La différence, c'est qu'un jeu de contrepartie, vous jouez contre le casino, donc contre la banque. C'est là où on dit on fait sauter la banque. Hein. Les tables de jeu, c'est un jeu vraiment de hasard où effectivement un client peut gagner et faire perdre la banque. Les machines à sous, il y a un taux de retour, c'est un petit peu différent. Et puis sur les jeux de cercle, c'est là où nous on amène une prestation, on amène un savoir-faire, une certaine rigueur, justement, qu'il n'y ait pas de problème. C'est différent qu'une partie fine de poker chez quelqu'un où vous ne savez jamais si c'est très clair. Chez nous, ça sera très clair. On amène tout ce service. Et pour ça, on prélève une partie des pots, on va dire. Et donc, c'est les clients qui jouent leur argent entre eux. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeu dit de cercle. Par exemple, le poker est un jeu de cercle.
D'accord. Vous me parlez des spectacles, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est 150 dates par an, ce qui est absolument énorme. Beaucoup de personnel, beaucoup de spectacles. J'ai eu la chance de venir voir chez vous, il y a quelques semaines, le programme annoncé pour l'année, avec un très joli spectacle offert d'ailleurs, et je vous en remercie. Comment ça se passe? Bien évidemment, vous avez les équipes qui s'occupent des programmations, des... Quel est votre rôle au sein des spectacles?
Alors mon rôle, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil, hein, c'est de fixer les objectifs, la stratégie, de regarder la connexion avec l'univers des jeux, les restaurants, etc., la programmation, et de donner les moyens qu'il faut à ma directrice artistique et à ses équipes pour correctement pouvoir réaliser leur métier. Le but, le théâtre, c'est de la notoriété, c'est de faire découvrir l'environnement du casino, c'est répondre au cahier des charges de la ville. Quand on a ouvert, c'est un métier dont on n'a pas trop l'habitude habituellement d'un casino. Il y a toujours un triptyque obligatoire dans un casino, les jeux, la restauration et l'animation spectacle. Mais derrière animation spectacle, ça peut être un simple guitariste une fois dans l'année dans un bar, comme chez nous, un théâtre avec 150 dates. Donc vous voyez la différence. On a fait de cette obligation une force aujourd'hui. Le théâtre est très installé dans le paysage toulousain. Il est très reconnu.
Vous avez une très belle salle, il faut le dire.
On a la chance d'avoir un très bel outil, une très belle salle, comme un très beau casino. Et du coup, on fait tout ce qu'il faut pour que notre saison artistique soit toujours la plus éclectique possible.
Oui.
Et la plus forte possible.
Éclectique parce que c'est vrai que vous recevez toutes sortes d'artistes.
Oui.
Ça peut être des one-man shows, des spectacles à plumes.
Alors, on fait de la danse, du jazz moderne, classique. On peut faire
des artistes, des chanteurs,
des concerts. On peut faire du théâtre. Et bien sûr, on fait aussi notre dîner-spectacle, qui est pas tout à fait un cabaret, qui est un dîner spectacle musical, qui est notre propre création avec des artistes toulousains. C'est très fort, on le programme plus de 50 dates dans l'année chaque année. On attire plus de 30 000 spectateurs pour voir notre programmation. C'est une vraie fierté pour la ville de Toulouse et pour nous, puisque c'est une pure création toulousaine. On a la chance à Toulouse d'avoir beaucoup d'intermittents du spectacle d'artistes qui sont de bonne facture et on arrive à monter des spectacles de grande qualité.
Quels sont les projets du casino? Alors, on n'a pas évoqué, parce qu'on a plein de choses à se dire, mais on n'a pas évoqué, bien sûr, la Covid, puisqu'il paraît qu'on dit là, qui vous a laissé des mois entiers fermés. Ça a dû être catastrophique pour vous, bien sûr. Comment vous l'avez vécu psychologiquement?
Alors, ça a été très, très dur. C'est parce qu'on avait une machine bien huilée qui fonctionnait bien. On était revenu dans des niveaux de... Parce qu'on a passé plusieurs crises dans le monde des casinos, mais on était revenu dans une fréquentation, une activité qui était très forte. Le train était en marche, c'est ce que j'ose dire. Et puis, subitement, comme un peu tout le monde dans le loisir, la pandémie arrive et puis on empile les mesures qui étaient très difficiles pour nous dans l'exploitation quotidienne. Donc ça a été très dur mentalement pour les équipes. On a perdu beaucoup de monde en route. Il y a des gens qui se sont réinventés, qui sont partis. Et ça a touché toutes les strates de l'entreprise. Je vais parler, sans être péjoratif, d'un simple employé jusqu'à un cadre dirigeant. Donc tout le monde a été touché et j'ai eu des désaffections partout. Quand on a repris en mai, quasiment tous les jours, j'avais deux démissions par jour. Donc vous pensez bien que pour ouvrir un bâtiment qui a été fermé pendant plusieurs mois, qui est très lourd, hein, c'est un gros bâtiment, c'est une grosse inertie. Donc pour relancer tout ça, avec toutes les incertitudes, en plus vous posez beaucoup de questions, parce qu'économiquement vous pensez bien que ça a laissé beaucoup de dégâts. Et donc c'est difficile, il faut réinsuffler tout ça. Et subitement, il vous manque un peu partout des compétences et des charnières. Et les gens qui reviennent et qui ont envie de revenir, qui sont contents, bah là-dedans, ils ont de la difficulté à se remettre dans le rythme. Moi, le premier, qui a un rythme extrêmement soutenu, subitement, j'avais repris une vie sociale un peu différente, un peu plus normale, etc. Et d'un seul coup, vous vous remettez dans un bain, une fréquence élevée, etc. Et tout ça, c'est difficile. Donc, c'est une charge mentale importante. Et ça a été très lourd à porter, en fait. Et ça l'est encore parce que, j'ai envie de dire, cet épuisement ou cette fatalité un peu, une sorte de mélancolie qui s'est installée, elle perdure avec ce qu'on vit aujourd'hui, et c'est très difficile de garder les gens concentrés, motivés dans ce qu'ils font, de garder la positivité.
Comment ça se passe, on a pour les gens qui viennent jouer ou voir un spectacle, c'est bien évidemment masque obligatoire?
Oui, alors déjà nous, c'est bien sûr, on a des contraintes très élevées, on a du gel partout, tout de suite on a été très rigide auprès de nos équipes, etc. Donc toutes nos équipes sont vaccinées, etc. Il y a fait cette obligation. Bien évidemment, le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans un casino. On était le seul métier qui avons gardé la distanciation dans les salles de jeu au niveau des postes de jeu. Le seul en France, hein. Les autres étaient revenus. Nous, on avait gardé une certaine distanciation dans l'offre de jeu. D'ailleurs, on comprenait pourquoi on était pénalisé alors que pas les autres. Mais on l'a gardé quand même. Puis, on a aussi le port du masque obligatoire aujourd'hui. Donc, au-delà des gestes barrières, au-delà de tout ce qu'on met, des désinfections régulières de tout ce qui se passe, etc., on reste un établissement qui reçoit du public et un public nombreux. Donc on est très attentif avant tout pour nos collaborateurs et pour nos clients, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a pas de cluster en France de déclencher dans un casino. Il y a 200 casinos en France, ce qui démontre bien que la profession et le groupe Barrière a su mettre dès le début des consignes très strictes justement pour pouvoir accueillir nos clients et nos équipes dans les meilleures conditions.
Qu'avez-vous comme projet pour le casino ?
Qu'est-ce que j'ai comme projet casino ? Ben, aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter parce que justement, est-ce qu'on vient de dire avec la Covid, on a plein d'appétence pour dire on va relancer la machine, on va oublier vite ça, on va à nouveau refaire notre métier, c'est-à-dire faire plaisir à nos clients, être là pour les accueillir du mieux possible, avoir ces satisfactions de recréer des spectacles, etc. Tout ça, c'est difficile parce que vous faites un pas en avant, puis on vous demande de faire deux pas en arrière. Vous recommencez un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, se projeter aujourd'hui, c'est la plus grosse difficile pour un chef d'entreprise. Donc, quand vous m'avez demandé c'est quoi votre travail, ben, c'est ça. C'est d'arriver à se projeter, d'arriver à faire évoluer les hommes et la structure. Et aujourd'hui, c'est difficile parce que on ne sait pas si on peut, s'il faut investir ou pas. On ne sait pas si on va mettre quelque chose en marche et puis la machine va être cassée tout de suite. Est-ce qu'il faut développer le marketing ou pas ou attendre? Je ne sais pas vous dire. Donc, les projets, c'est quoi? Aujourd'hui, à travers ce que je vous ai dit, c'est de se concentrer sur les équipes et ramener de la positivité, ramener ce qu'on appelle quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, ce qu'on appelle la QVT, hein, qualité de vie au travail, ramener une certaine cohésion et un certain bien-être dans l'entreprise au niveau des salariés, puisque je pense qu'un salarié qui vit bien son travail fera un travail de qualité et donc l'accueil client sera de qualité, donc le client se sentira bien chez nous. Donc je pense qu'il y a un axe stratégique autour de ça qui est très difficile par rapport à ce qu'on dit là, mais qu'on va travailler. Donc ça, c'est un axe que je veux absolument développer encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Souvent, on fait beaucoup de choses, mais nos équipes l'oublient. Donc là, il y a un vrai marketing RH à faire, de redire aux gens tous les jours tout ce qui est fait, tout ce à quoi ils ont accès. Et puis, quand même avancer. Donc, par exemple, pour vous répondre, on travaille sur notre 11e création de notre dîner spectacle. Donc, en septembre prochain, on vous invitera si vous souhaitez le découvrir. On lancera un nouveau spectacle et on veut se réinventer aussi pour changer un petit peu tout ça et dire on passe à autre chose. Donc, on va sortir un petit peu du modèle habituel. On va aller se frotter un peu plus à la comédie musicale. Donc, il y aura une mise en scène un peu plus forte. Je vous dévoile un petit bout.
Oui, ça me fait sourire. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous savez vous remettre en question et continuer d'évoluer sans arrêt.
Mais il faut, et je ne remercierai jamais assez ma directrice artistique qui a eu cette formidable idée et qui crée pour nous ces spectacles et qui les écrit, parce que, vous voyez, c'est important d'être entouré de gens, justement, qui vont se remettre en question et qui vont proposer des choses. Je crois aujourd'hui que pour rester concentré et pas être dans ce défaitisme ou ce fatalisme, il faut bouger les lignes. Il faut se réinventer, il faut essayer de trouver d'autres leviers de croissance, il faut remotiver autour de projets les équipes en fait.
Vous continuez à recruter régulièrement ?
Ah oui, j'ai encore certainement quelque chose comme une 30 à 40 postes en gestation.
On les trouve où ces postes ?
Eh bien, si vous avez la recette, dites-le-moi, je cours tout de suite.
Dites-nous, parce que si certains sont intéressés justement...
Les annonces se trouvent un peu partout, sur tous les sites
vous avez
spécialisés.
Vous avez bien sûr, j'imagine, le site du casino.
Oui,
les talents recherchés.
Exactement, le site Barrière, sur Facebook, sur Le Bon Coin, un peu partout, sur LinkedIn, partout. On les met partout, même dans les presses spécialisées, quand c'est des postes un petit peu particuliers. Souvent, on ne le sait pas, mais au casino, j'ai plus d'une cinquantaine de métiers différents.
Oui, donc quelqu'un qui cherche du travail peut peut-être trouver son
exactement,
bonheur chez vous.
Exactement.
C'est vous, ne vous occupez pas du recrutement, vous, personnellement?
Alors, non.
Mais enfin, ça dépend des postes, j'imagine.
Ça dépend des postes,
bien
voilà.
Sûr.
Plus on monte dans la structure, plus j'aurai mon petit mot à dire. Bien évidemment.
Dites-moi, Eric, est-ce qu'il y a une question dans cette émission que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée?
Peut-être que vous auriez pu me dire, mais ça fait longtemps. Est-ce que vous allez progresser dans le mot barrière ou est-ce que vous voulez changer de métier à nouveau? Vous auriez pu me poser la question, est-ce que vous avez l'appétence de changer à nouveau de métier?
Et qu'est-ce que vous m'auriez répondu?
J'aurais répondu qu'il y a une partie de moi encore qui a cette fibre, qui aimerait bien se frotter à quelque chose d'autre. Mais en même temps, l'âge venant, entre guillemets, même si je me sens encore très jeune, je ne sais pas si je suis prêt à refaire ces gros sacrifices. Parce que dans ce parcours, ça paraît, je suis un autodidacte, ça paraît facile, etc. Mais il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience. Faut
ça, j'en doute pas une seconde.
Et souvent, ça, par exemple, dans le recrutement, pareil du recrutement, c'est quasiment le savoir-être et ce genre de choses, c'est ce qui est le primordial. Ça vaut presque plus que la compétence ou le diplôme. Et aujourd'hui, ce sont des qualités qu'on retrouve peu ou pas. Et d'ailleurs, le modèle social change, donc il faut aussi que l'entreprise s'adapte, puisqu'il faut que j'arrive à faire marcher l'entreprise avec des jeunes qui arrivent avec une tête bien faite, mais qui n'ont pas ce modèle de fonctionnement. Et donc qui aspire à autre chose. Et donc ça nous pousse à réformer aussi l'entreprise dans sa vision. Et donc c'est difficile, ça bouge les lignes, ça me bouge aussi, ça bouge ce que je crois, parce que c'est ce qui m'a constitué, mais je crois qu'il faut rester ouvert à ça pour ne pas rater quelque chose.
Merci, merci Eric d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Au revoir.
Au revoir.
C'est un bon enfant, Michiche, qu'elle te tire comme une biche à bout portant pépère.